France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus, moi c'est Déborah Grunewald, nouvelle balade aujourd'hui dans le rétro, le podcast. Si vous découvrez l'émission, c'est un voyage spatio-temporel avec un invité et un prétexte aussi pour en découvrir davantage sur chacun d'entre nous, puisqu'on y parle de questions communes, d'épreuves, de doutes, de bonheur. Aujourd'hui, nous sommes avec un artiste qui a des choses à dire, à chanter et à partager. Toi, plus moi, plus tous ceux qui sont seuls se reconnaîtront dans ces mots. Mon invité aujourd'hui, c'est Grégoire, passé, présent, futur. C'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Grégoire.
Bonjour Déborah, bonjour à tous.
Alors il y a une chose rare, c'est pour ça que je voulais en parler. Quand on reçoit un artiste, on nous envoie ce qu'on appelle un dossier de presse. Ouais. Quand c'est un chanteur, on reçoit les titres du nouvel album, on reçoit les dates de tournée, des photos aussi, une biographie habituellement écrite par un auteur, une équipe ou la maison de disques. Là, c'est vous qui l'avez écrite, cette biographie. Ouais. Et elle commence non pas par votre naissance, mais par la naissance de vos frères.
Oui, exactement, parce que je suis le dernier de quatre garçons et c'est important dans mon parcours, c'est important dans la musique et c'est important dans la thématique de ma vie et de la vie en général, qui est le thème de ce nouvel album, le vivre. Et puis ma mère m'a toujours dit qu'on ne commençait pas une lettre ou quoi que ce soit par jeu. Une phrase.
Elle a raison.
Oui, c'est vrai.
2024, nouvel album, il s'appelle Vivre, on connaît déjà ce titre.
Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment. Jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret.
Ça, c'est la version acoustique. Le message de votre album, c'est « La vie est belle si on le décide ». Oui. Alors là, certains vont penser « Ouais, c'est facile à dire, il n'a pas dû galérer dans sa vie. Pourtant, vous avez traversé des épreuves qui auraient pu vous briser. » On va y revenir dans cette émission. Vous pensez qu'on a tous la faculté d'être heureux ?
Oui. On a tous la faculté d'être heureux, alors on trouvera toujours une exception à la règle. Il y a un livre qui s'appelle « Comment donner un sens à sa vie » de Viktor Frankl. Il a vécu la déportation, il était médecin, donc il a écouté tous les autres déportés leur confier leur malheur. Donc en plus de son malheur, il avait le malheur des autres. Et il dit une phrase qui est très juste, qui dit « La vie, c'est une série de situations et tout dépend de la réponse qu'on leur donne, en fait. » Je pense qu'on a le choix, en fait, entre décider de continuer d'aller de l'avant malgré les épreuves et malgré de terribles épreuves.
On pense que le bonheur dépend de la réussite sociale, financière et ou professionnelle, alors que prendre la vie du bon côté, ça va se chercher en soi.
Oui, et puis aussi prendre conscience du moment présent, prendre conscience des choses qui nous entourent. Combien de gens qui ont réussi brillamment, j'allais dire, d'un point de vue financier, mais combien de milliardaires se sont perdus et se sont retrouvés tout seuls et en fait, on s'est vite rendu compte. Il y a toujours cette espèce de cliché dans les contes un peu où on dit le mec qui, à la fin de sa vie, regarde derrière et dit ben, « finalement, j'ai presque tout raté ». Déjà, le bonheur, c'est aussi de se contenter d'apprécier ce qu'on a. On court après des choses, mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on a. C'est la pression qu'on se met soi-même, hein. mais j'allais dire, l'important, c'est vraiment l'épanouissement. Ne serait-ce qu'une vie de famille apaisée et sereine, c'est déjà énorme.
Hein. Décider d'être heureux, c'est possible, mais il faut prendre son destin en main.
On m'a dit ceux qui osent peuvent changer les choses et un jour tout gagner. Il n'y a que ceux qui croient qu'un jour ça arrivera, qui le voient arriver. Allez, viens, on avance. On laisse là ceux qui pensent tout savoir, tout connaître. Allez, viens, on s'en va. On trouvera un endroit où l'on pourra renaître.
Est-ce qu'il y a des choses concrètes, quotidiennes, qu'on peut faire pour ne pas tomber dans l'aigreur, le ressentiment, la jalousie, l'amertume, ces émotions en fait qui nous empêchent souvent d'accéder au bonheur? Est-ce qu'il y a des petites choses concrètement qu'on peut faire et peut-être que vous vous faites au quotidien?
Prendre conscience de ça, c'est-à-dire de se rendre compte que dès qu'on pense négativement, de se dire stop, j'arrête, je change de disque. Après, il y a des trucs très bêtes, c'est-à-dire le matin. Alors moi, je prends une douche froide. Déjà, ça remet les idées en place.
Quel courage.
Mais en revanche, ne serait-ce que c'est tout bête, hein, mais de se mettre devant un miroir et commencer à sourire et se forcer à sourire, vous allez voir que très rapidement, vous allez vraiment sourire. Il y a évidemment le sport. Moi, je me réveille, j'ai tendance à avoir une sorte de routine. Déjà, pas d'écran, comme j'emmène les enfants à l'école. Donc, tant que je suis pas rentré, donc au moins une demi-heure, je regarde pas mon téléphone. Lire. Et lire pas sur son téléphone. Le mouvement des yeux qui lit une feuille, même si vous retenez rien parfois, il paraît que, je crois que c'est Michel Simès qui disait ça, c'était vachement intéressant, c'est que 6 minutes de lecture comme ça réduit 70% de stress. Donc ça coûte pas grand chose. Donc il y a plein de petits détails comme ça, mais que moi j'applique au quotidien et je pense que c'est très important.
On évite par exemple les chaînes d'infos en continu dès le matin, quoi.
Ça c'est très très important et vous faites bien de me le dire parce qu'en fait effectivement le cerveau lui n'est pas fait pour nous rendre heureux. Le cerveau il est là pour nous prévenir du danger et nous aider à survivre. Un cerveau dans une rue il va dire attention la voiture va trop vite, attention il se passe ci, attention il se passe ça. Donc déjà que lui il prend conscience de tout ce qui ne va pas autour de vous, si en plus vous lui le nourrissez en permanent d'informations négatives, il va faire que ça d'angoisser. Et donc c'est vrai qu'il faut se reposer le cerveau à ce niveau-là.
Vivre, c'est un album qui reflète toutes les expériences et les émotions que vous avez vécues, vous Grégoire. S'il fallait nommer ces émotions, ce seraient lesquelles ?
Dans Vivre, il y a l'innocence, il y a l'insouciance, il y a beaucoup d'émotions enfantines, en fait, qui se rapportent à ça au monde, tel que le voit le petit prince, tel que le voient mes enfants, tel que je pense qu'il faut toujours le voir.
Vous dites qu'écrire et écouter des chansons intimes, ça permet de pleurer, et les pleurs, c'est un exorcisme.
Oui. Ça, c'est sûr. Je dis souvent que Jacques Brel m'a sauvé la vie, entre guillemets. Quand j'avais un chagrin d'amour et que j'entendais « Ne me quitte pas », ça me permettait de pleurer et de lâcher. Et ça fait du bien quand on pleure. C'est comme quand on se confie à un ami, en fait. Se dire « Tiens, il a vécu la même chose, il a peut-être même vécu pire pour écrire un truc aussi beau. » Bon, ce qui n'est pas le cas quand on connaît la vraie histoire de la chanson. Mais voilà, et Jean-Jacques Goldman et tous ces gens-là, en fait, les chansons tristes, moi, avaient tendance... Je pense que surtout aussi, rentrer dans son émotion... Et que ce soit alors le chagrin d'amour ou le deuil ou autre, je pense qu'il faut le vivre.
Et l'accepter.
Vraiment. Oui, il faut l'accepter et il y a ce moment-là où il faut se confronter. Je pense que c'est... C'est-à-dire quand vous vivez une émotion très forte et très douloureuse, parce que et négative, entre guillemets, si tout de suite vous mettez des choses qui vous évadent tout le temps, de toute façon, à un moment, vous allez être confronté à ça. Donc, autant le faire tout de suite.
En fait, c'est lâcher prise.
Exactement, c'est accepter. Accepter ce qui vient de se passer et ce qui est important à faire dans le négatif, mais aussi dans le positif. Ça, c'est vachement important.
Grégoire, vous êtes en tournée aussi. On mettra les dates sur la page de l'émission. Concernant l'album Vivre, il s'écoute comme on lit un livre. Les histoires y sont touchantes, l'écriture résiliente. Il décrit les joies, les peines, les bonheurs, les chagrins, mais reste une ode à la vie. Le single du même nom pourrait en être l'hymne par excellence. Vivre, on l'écoute justement et on revient juste après avec Grégoire sur France Bleu.
Oui, mes amis, nous allons vivre et vivre fort intensément. À ne regarder que devant, vivre à plus de 100 000%, en oubliant qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre sans condition, vivre vraiment, sans peut-être sans oui, mais attends, à tout bouffer à pleines dents, à surtout ne jamais subir. Oui, mes amis, nous allons vivre les doigts en verre, la tête au vent, le regard fier, le feu au sang, le courage et le cœur battant, nous relevant malgré le pire. Oui, mes amis, nous allons vivre sans jamais perdre aucun moment, jamais laisser filer le temps, en se serrant, en s'embrassant, à oublier qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre, vivre sans regret, sans tourment, pliant peut-être mais résistant à toutes les tempêtes, les torrents, à toutes les critiques d'espire. Oh mes amis, nous allons vivre et vivre sans anesthésiant, sans être abruti de calme, vivre sans être de tous ces gens qui meurent bien avant de mourir. Oui mes amis, nous allons vivre, vivre toujours en se disant qu'à part l'amour, rien n'est urgent, le reste est vain, inconsistant, car un jour nous allons mourir. Mais d'ici là, nous allons vivre, à tout donner, à tout venant, sans calculer, presque inconscient, car rien ne vaut que ces instants où l'on oublie qu'on va mourir. Oui, mes amis, nous allons vivre.
Vivre, c'est le premier single extrait de l'album Vivre, du même nom donc, de Grégoire. Grégoire qui embarque avec nous pour un voyage dans le temps sur France Bleu.
France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro.
Allez, on y va, c'est parti. « connaissez à Senlis, dans l'Oise. Vous avez trois grands frères, Ludovic, Sébastien et Nicolas. Votre père Jean-Marc est ingénieur, votre maman Christine est prof de maths. Vous avez une enfance heureuse. Qu'est-ce qu'il faut, selon vous, à un enfant pour qu'il ait une enfance heureuse?
Une enfance assez sereine. C'est-à-dire que moi, jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans... On n'a pas déménagé beaucoup. Alors après, il y a sûrement des vies, nomades qui se passent très bien. Mais j'avais toujours de la diversité dans mon assiette aussi. On avait, ce qu'il fallait comme fourniture scolaire, comme habits. En plus, moi, comme je suis le dernier de quatre, je récupérais tous les habits des grands. Une maison, un petit jardin, une vie de province, dans une ville tranquille. Enfin, tout, que des bons souvenirs de petits matchs de foot dans le jardin et de choses comme ça, quoi.
Vous êtes papa, vous, Grégoire. Est-ce que vous avez tendance à reproduire l'éducation de vos parents?
Éducation, je sais pas, mais en tout cas, de remettre dans le contexte. Et moi, j'habitais en banlieue parisienne au début, là, à Boulogne-Billancourt. Et quand mon fils est passé au CP, on a décidé de déménager et de retourner à Senlis.
Voilà. C'était important pour se déconnecter un petit peu
C'était important pour eux. En fait, je voulais qu'ils aient la même enfance. Je voulais qu'ils passent... c'est le problème des grandes villes, et notamment de Paris, entre guillemets, c'est que quand il neige à Paris, on ne fait pas de bonhomme de neige. Et on marche dans la boue, en fait. Et il y avait ce côté-là, et je trouvais que les moments où il neige, on fait des bonhommes de neige. Les moments où il pleut, on va chercher des champignons dans la forêt. Il y a les odeurs de la pluie, il y a l'odeur de faire des feux de cheminée, des choses comme ça. Et c'est des choses que je voulais leur offrir, d'aller chez les copains à vélo, en traversant des villages, il y a toute cette idée-là dans laquelle j'ai vécu, dans laquelle ma femme a vécu, elle, dans le sud-ouest. Et donc, c'était leur redonner l'opportunité de vivre ça.
Téléportation, Grégoire. Vous avez 5 ans, nous sommes en maternelle, vous êtes là un peu crado, vous aimez bien traîner dans la boue. Vous pourriez jouer dans une pub pour de la lessive, s'amuse à dire votre maîtresse. Quelques années plus tard, en primaire, vous êtes un élève sympa qui fait des vannes. Vous n'avez jamais été mis à l'écart à l'école? Il y a beaucoup d'artistes qui se sont sentis exclus du système scolaire.
Non, pas du tout. J'ai jamais ressenti ça. J'étais du genre à jouer... À jouer au foot avec les garçons, et j'étais du genre à mettre à l'époque il y avait les élastiques où les filles sautaient et donc moi je faisais le mec qui tenait l'élastique parce que j'adorais traîner avec les filles, donc j'apprenais la corde à sauter je participais à tout. J'avais ce côté-là assez social en fait, sauf pour avouer mes sentiments.
Sur votre album Vivre, il y a ce titre.
On le voyait là seul contre le mur à essuyer des tas d'injures que les autres lui jetaient pour rire. Moi je restais là sans rien dire. On le voyait là, seul contre le mur, le regard de plus en plus dur. Moi j'étais lâche, moi j'osais pas, de peur que ça m'arrive à moi.
Le harcèlement tue, des enfants se suicident, quand des parents témoignent, ça nous arrache le bide. Moi ça m'arrache le bide à chaque fois. Que dire aux enfants harcelés et à leurs parents?
Je sais pas ce qu'il faut leur dire. En tout cas, moi ce que je dis, c'est que la position que j'ai, c'est que j'ai pas été harcelé, j'ai pas été harceleur, alors j'ai peut-être... parfois rigoler à des blagues qui n'étaient pas bonnes, ou peut-être fait même parfois des blagues, mais je n'ai pas eu ce côté vraiment harceleur. Et donc je fais partie de cette masse qui est là et qui ne sait pas quoi faire. Et la seule chose que je dis, c'est qu'il faut aller soutenir déjà le harcelé. Déjà lui dire, t'as une épaule, il y a quelqu'un, donc d'être dans son camp. Et ensuite, le mieux, c'est essayer de l'accompagner le plus possible, en tout cas de former une sorte de mur, de l'intégrer aussi. Lui dire, viens, de ne pas le laisser tout seul. Donc c'est toutes ces choses-là, c'est des petites choses qui parfois peuvent tout changer. Oui, parfois ne changent pas grand-chose non plus. Essayer en tout cas de ne pas être lâche, et si on n'y arrive pas, d'en parler avec les autres et de se dire comment on peut faire, il faut l'entourer, l'accompagner.
En tant que papa, vous avez peur de ça?
Bien sûr.
Que ça arrive à vos enfants?
Ah ben oui, tout le temps.
Donc, vous en parlez?
J'en parle régulièrement. Je leur demande vraiment si on les embête, si on est... Enfin, je demande aux profs aussi, à l'encadrement, je me dis qu'ils ne voient pas vraiment, mais c'est vrai que c'est toutes ces histoires qui sont passées, moi, qu'un enfant de 10 ans décide de mettre fin à ses jours, mais je ne comprends pas qu'à 10 ans, on ait même l'idée. C'est-à-dire que ça doit être vertigineux, et le pire, c'est même pas le pire, mais que des parents ne s'en rendent pas compte, je me mets à leur place. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne doit pas réaliser ça, en fait. Et ça arrive du jour au lendemain, et il y a quelque chose qui doit être en plus... du drame de perdre son enfant, le fait de se sentir impuissant et de ne pas avoir vu.
De culpabiliser.
Ça doit être affreux. Et c'est vraiment ça qui m'a donné envie de me dire, bon, Je suis pas forcément le mieux placé, mais je vais essayer moi de mettre ma vision des choses là-dedans pour en parler, pour dire qu'il faut pas le faire et qu'il faut pas que c'est pas bien. Oui, c'est ça l'idée, mais surtout plus on en parle, plus ça devient un sujet normal de dire attendez non mais là il y a un problème madame. Ah oui, effectivement, et voilà, et que la peur change de camp.
Vous écrivez, il était là seul dans la cour et moi-même je m'y suis mis un jour. Fallait bien faire partie de la bande, fallait pas que ma joue je leur tende. À l'adolescence, les enfants se cherchent. Ils veulent pas être rejetés, alors ils deviennent des bourreaux. Pas par haine, mais par faiblesse. Parfois, à aucun moment, c'est excusable évidemment. Mais est-ce que les parents des harceleurs ont un rôle majeur à jouer finalement là-dedans aussi ?
Ah bah s'ils s'en rendent compte, évidemment. S'ils sentent bien que leur fils ou leur fille est en permanence en train de manipuler tout le monde et d'être violent avec tout le monde, évidemment. Après, on peut pas non plus forcément leur jeter la pierre, parce que si ça se trouve, il y a des enfants qui n'ont pas du tout le même comportement à la maison avec leurs parents et à l'école. Donc on ne se rend pas forcément compte de ça. Donc c'est pas eux que je jetterai la pierre. Mais après, en revanche, c'est vrai que c'est d'une violence rare, le collège. Et là où j'essaierai de mettre le doigt, c'est qu'en fait, souvent, quand on parle de harcèlement, on a l'impression que c'est le côté le gamin qui a racketté tous les soirs, le gamin qu'on tape, ceux qui sont violents, etc. Mais le harcèlement, c'est aussi autre chose. C'est aussi la petite phrase tous les jours sur t'as vu comment t'es habillé, sur j'allais dire la forme physique pour certaines personnes en surpoids ou autre, ou des choses comme ça, et cette espèce de taquinerie, de vanne permanente, quotidienne, où tout le monde s'y met, qui fait rire toute la classe et l'autre qui fait oui et qui essaye de rigoler aussi, ça crée un mal-être surtout à cet âge-là. Et donc, il faut faire attention à ça.
Et en plus, aujourd'hui, ça continue aussi sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de répit.
Voilà, ça ne s'arrête même pas à la maison. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là. Donc, il faut faire attention à tout ça. En fait, l'idée, c'est vraiment d'être bienveillant de manière permanente. Ça peut être de tout. Ça commence aussi par non, tu ne rentres pas dans l'équipe de foot parce que tu es trop nul. Non, il faut prendre un temps pour tout le monde. Il y a des gens qui ont des qualités dans certains trucs. Et voilà, il faut échanger et il faut y aller.
France Bleu, dans le rétro, Déborah Grunewald.
On part maintenant en 1987. Nous sommes dans votre chambre. Il y a là votre frère Ludovic. Il est en train de vous apprendre à jouer Let It Be des Beatles. Ludovic, c'est votre grand frère. Il a 10 ans de plus que vous. Il aime le piano. Il adore la musique anglo-saxonne. C'est lui aussi qui vous a tout appris, la musique, le piano. Les filles, allez-y.
Moi, je vais dire, lui, il savait très bien parler aux filles. Après, il donne les conseils qu'il peut, mais c'est vrai que j'étais moins bon pour appliquer les conseils sur les filles.
Et c'était quoi les conseils, par exemple ?
Non, je sais plus, mais c'était ne serait-ce que dans sa façon d'être. C'est-à-dire, il était à l'aise, les faire rigoler, il était là, il y avait ce côté-là que moi, j'arrivais pas du tout à faire. Je vais dire, la fille qui me plaisait, en tout cas, j'allais pas dire elle me tétanisait, mais presque. J'étais dans une sorte de timidité, j'étais gentil, mais
maladroit.
Complètement. Carrément. Non, touchant, je pense. Touchant, mais effectivement, pas dans la prise d'initiative, pas dans le...
À l'adolescence, en plus, on n'a pas envie que le garçon soit touchant, quoi.
Ah ben non. Ça, c'est l'éternel dilemme, en fait. C'est-à-dire que on cherche pas le garçon gentil. C'est plutôt le règne du bad boy, mais la vie fait bien les choses et sur le long terme. Généralement, les filles, elles recherchent plutôt un garçon gentil.
Comment on drague quand on est timide ?
On écrit des lettres. Moi, j'envoyais des lettres, mais qui étaient trop enflammées.
Donc, ça fait flipper.
Ah bah, ça carrément fait flipper. Justement, j'avais pas mal de copines, parce que comme j'écrivais des lettres, j'avais quand même pas mal de copines qui étaient, alors mais pas des petites amies, mais j'étais quand même un très bon copain des filles. Et donc, elles me donnaient des conseils, mais elles disaient « Non, mais tu peux pas dire je t'aime une fille avant de la connaître un peu mieux, etc. » Donc après, connaître la mesure, etc. Alors que moi, j'étais « Non, faut que j'ouvre mon cœur, et si elle est faite pour moi, elle ouvrira son cœur d'un coup. » C'était un peu utopique et romantique, mais...
C'est ce que j'allais dire, romantique. Vous êtes un romantique.
Ouais, et finalement, ça s'est passé comme ça plus tard avec ma femme.
Vous auriez eu les réseaux sociaux à l'époque. Est-ce que vous auriez été plus à l'aise pour draguer ? On est un peu plus planqué, il y a le filtre de l'écran.
Oui, alors c'est pas la même chose, parce qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est vraiment des... Comment dire ? C'est comme des petits mots en classe. Mais ça va tellement vite. Non, parce que moi, je prenais le temps vraiment d'écrire des lettres. C'est comme écrire une chanson. Quand on écrit une chanson, ça peut prendre longtemps Et à un moment, il y a vraiment toute une réflexion sur un sujet et on relit plusieurs fois pour savoir si ça peut être mal compris ou pas. Et dans les lettres, il y avait de ça aussi. Il y avait cette idée de poser ses mots. Quand on écrit un texto, quand on écrit un truc, on envoie et on peut effacer, on peut revenir, on peut dire « Ah non, mais c'est pas ce que je voulais dire ». C'est pas du tout la même chose. Il y a beaucoup moins de poésie.
On en parlait de ces fameuses lettres. Vous avez, Grégoire, maintenant 12 ans. Assis sur votre lit, vous griffonnez quelques mots, vous écrivez des poèmes aux filles que vous aimez, vous écrivez le prénom à la verticale et à chaque ligne, en fait, vous écrivez une phrase qui commence avec une des lettres du prénom. Ça doit rappeler des souvenirs à certains et certaines. Vous écrivez donc des lettres d'amour, vous les envoyez, mais elles restent sans réponse. Comment on réconforte un enfant dans ces cas-là ?
J'ai été réconforté par la musique. J'étais réconforté par des gens comme justement Jacques Brel, Jean-Jacques Goldman, même par tous les poètes, hein, c'est-à-dire Hugo, Baudelaire, Cyrano. Donc il y avait tout ça qui me rassurait. Moi, j'ai jamais perdu espoir de rien.
Malgré les râteaux, malgré...
Malgré les râteaux et malgré pire qu'on verra plus tard. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai toujours... Il y avait parfois des déceptions, des tristesses qui pouvaient durer quelques jours, quelques temps. Mais en revoyant la fiche, je me dis, en tout cas, elle le sait. Enfin voilà, je sais pas, ça me relançait une émotion. J'y croyais encore. Et puis jusqu'à ce que soit vraiment, j'y crois plus. Et puis je passe à autre chose. Ou sinon, cette espèce d'innocence et d'inconscience de l'enfant. Il y a un truc qui, chez moi, est un peu comme ça, pour rejoindre le petit prince, qui est vraiment une sorte de... Si, ça doit être possible, on peut quand même toujours. Il y a vraiment, vous pensez vraiment que c'est aussi triste? Non, on peut voir les choses positivement.
Quelques années plus tard, vos parents divorcent, vous avez 16 ans, vous dites, le divorce de mes parents, c'est le premier contact avec les choses qui n'arrivent qu'aux autres.
Oui.
Le divorce, ça fragilise les enfants, pourtant il y en a de plus en plus aujourd'hui. Vous pensez que ça a un impact sur la vision du couple et de l'amour quand on est un enfant de divorcé?
Chez moi, ça en a eu un extrêmement important. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, je me suis dit, je n'aurai pas d'enfants si je ne trouve pas leur maman. Avoir des enfants, pour moi, n'était pas un but en soi. Le but, c'était d'avoir un couple heureux et épanoui, et donc ensuite d'avoir des enfants. Et après, si j'avais rencontré une femme qui n'aurait pas pu avoir d'enfants, je serais resté avec elle. Enfin voilà, l'idée n'était pas d'avoir des enfants, d'être parent. L'idée d'être parent est venue une fois que j'étais déjà mari, en fait.
À 17 ans, vous rencontrez votre première petite amie, vous écrivez « Les planètes s'alignent ». Alors cette expression, on l'utilise souvent pour parler d'un concours de circonstances heureuses. Là, je vais vous prendre au mot, mais est-ce que vous croyez en une espèce de force, d'énergie qui pourrait influer sur nos vies ?
Je sais pas, une énergie, et j'aime bien l'idée d'énergie, parce que je pense qu'en fait, souvent les chances sont provoquées. Il y a très peu, alors il y a sûrement des hasards heureux, entre guillemets, mais j'ai l'impression, moi, tous les gens, toutes les jolies histoires que je croise, c'est jamais un mec qui s'est dit « je veux pas de ça » et qui a eu tout eu. C'est toujours quelqu'un qui a essayé, qui s'est relevé, qui a continué. Donc moi, je pense qu'on provoque les chances. Et donc, cette idée d'énergie me plaît pas mal, c'est-à-dire qu'on crée une énergie. Et le fait de voir les choses positives, ça veut dire que si on voit des signes positifs, même si ce ne sont que des coïncidences, hein, mais c'est ça qui est marrant, c'est ça que j'adore. Et après, je pense qu'effectivement, on donne cette envie-là aux autres. Moi, il y a plein de gens qui m'ont aidé avant que je fasse de la musique, qui m'ont aidé à faire de la musique sans jamais avoir entendu une seule note de musique de ma part. Simplement parce que je leur transmettais mon envie. Et donc, il y a vraiment cette idée-là. Je pense qu'on accompagne les autres. Il y a des gens comme ça, hein, qui vous donnent envie d'aller faire les choses.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
On appuie sur le bouton. Nous sommes dans le train, destination Paris. Vous quittez Senlis pour vous installer dans une chambre de bonne. Vous squattez aussi chez des potes. Alors le week-end, vous rentrez quand même chez votre maman. Prendre son envol, quitter le nid familial, ça a été compliqué ?
Pas tellement, parce qu'en fait, Senlis, là d'où je viens, c'est vraiment à côté de Paris. Donc on y allait quand même de temps en temps le week-end, pendant qu'on était au lycée, pour aller dans les boîtes de nuit, les choses comme ça, entre potes. Et il y a pas mal d'amis qui sont partis aussi à Paris. Donc on se retrouvait beaucoup. Puis je sortais en plus de ma première relation amoureuse, qui avait duré 2 ans.
Ouais, ça n'a pas duré longtemps à cause justement de ce départ, non aussi,
un peu. Justement, en fait...
Les études et tout ça, quoi.
On était ensemble en première terminale. Et en fait, quand on est parti à Paris, ça s'est terminé. Mais bon, c'était voué à se terminer. Et donc, ça me faisait aussi du bien de changer de décor et d'aller découvrir. Et puis, d'être confronté un peu... C'est un apprentissage. La chambre de bonne à Paris, c'est quand même un apprentissage de la vie vitesse grand V, hein.
Un week-end, vous rentrez chez votre maman tôt le matin, vous entendez le cri de votre maman, votre prénom dans un cri, le cri des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Votre frère Ludo vient de mourir dans un accident de voiture. Je me permets d'en parler parce que vous le racontez. On ne se connaît pas, mais moi, quand j'ai lu votre histoire, c'est hyper touchant, ça déchire le cœur. Il y a quelque chose de puissant et qu'on ressent dans vos chansons.
Je pense qu'il faut...
On imagine cette scène, en fait.
Ouais, mais il faut de parler maman, tout parce que c'est un... En fait, l'idée, c'est de vivre. Et si on ne prend pas la vie dans toutes ses formes, on ne prend pas conscience de tout ce qu'il y a de bien aussi. Et je pense que ce moment-là, c'est un des moments les plus marquants de ma vie parce que mon repère, en fait, s'écroule, en fait.
C'était votre modèle.
C'était mon modèle. En plus, on était vraiment nés à 10 ans et 3 jours d'intervalle. Donc, on avait nos anniversaires ensemble, tout, on faisait tout ensemble. Et il m'a tout appris. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ai 23 ans, donc je suis encore un peu, j'allais dire, pas terminé d'une certaine manière. Et ça m'arrive comme ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a quand même cette prise de conscience que la vie, du jour au lendemain, ça s'arrête. Que tout peut basculer en une seconde. Et donc, ça me pousse vers mon rêve. Ça me pousse dans l'idée de me dire jamais, à ce moment-là, je vais aller m'enfermer dans un truc qui ne m'intéresse pas. Mais je préfère la galère et la bohème de poursuivre un rêve plutôt que d'aller quelque part et de regretter tous les jours de ne pas essayer de vivre mon rêve. Ça décomplexe aussi pas mal les gens autour de moi. C'est-à-dire que mes parents, à l'époque, j'allais dire, quand on disait on va être chanteur, eux, ils se sont dit non, passe ton bac d'abord, etc. Et quand Ludovic a disparu, eux-mêmes, ils se sont dit vas-y, fais ce que tu veux.
Est-ce qu'on en parle de Ludovic ou c'est un sujet trop douloureux qu'on évite en famille?
Non, on ne parle pas de Ludovic parce que. Enfin, on en parle. On se retrouve pour son anniversaire, que ce soit de naissance ou de mort. On ne se pose pas pour en parler pendant 2 heures. Mmh. Mais ça n'existe pas, ça. Tous mes amis qui étaient là, qui étaient à la messe, qui savent, etc. Il n'y a jamais un moment, il y a un de mes amis qui me dit « Au fait, ça va avec ton frère il te manque pas trop ?» Ça n'existe pas, ça. On demande des nouvelles des enfants.
Pourquoi ? Parce que c'est gênant ? Parce que c'est tabou ? Parce que ça met mal à l'aise ?
Parce que c'est compliqué à faire. C'est compliqué à faire, même quand on l'a vécu. J'ai plus de facilité d'en parler avec pas mal de gens. Parce qu'effectivement, c'est des choses que, pas que je maîtrise, mais que je connais pas mal. En revanche, on ne peut pas reprocher à quelqu'un de ne pas avoir connu cette douleur, et donc de ne pas savoir comment faire. Et ça, on ne veut pas en plus nous-mêmes l'imposer, mais c'est là où l'écriture sauve quelqu'un, hein, d'une certaine manière. On le vit tous aussi différemment dans la famille, chacun un peu à sa propre histoire.
Vous écrivez un texte pour l'enterrement, un poème. Je me suis demandé si ce poème, c'était pas ça.
Je ne crois pas que tu meurs, je ne crois pas que je pleure, non, je n'y crois pas. Je ne crois pas que tu t'en vas dans ce cercueil seul et froid, non, je n'y crois pas.
Vous avez fait un signe de la tête, non, c'est pas ce poème.
Non, c'est pas ça. Mais c'était pas. Non, ça s'est arrivé bien après. Non, c'était pas ça. Vous le voulez ?
Non, c'est trop personnel.
Non, parce que je récite tous les soirs en concert.
C'est vrai, vous le récitez ?
Oui. Je ne vivais de rien sous l'ombre d'un géant, mais mon phare s'éteint au bout de l'océan. Non, je ne veux pas croire à la vie éphémère, je ne veux pas savoir, je ne peux pas m'y faire. J'ai goûté chaque mot, chaque geste et parole, je n'avais qu'un héros, je n'avais qu'une idole, mais je ne devrais pas te parler au passé. Si tu veux vivre en moi, tu peux t'y installer. Je te garde une place, un abri, un refuge, loin de ce temps qui passe et loin de tous ces juges, ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui n'ont pas compris que tu étais génial, que tu étais ma vie. Et la mort, malgré tout, n'aura jamais raison, surtout pas entre nous, tu es mon horizon. Je garde ton regard comme unique lumière, tu restes mon rempart, tu restes mon grand frère.
C'est beau.
Merci.
Vous vivez un autre drame, à 27 ans, le suicide de Nicolas, votre autre frère. Parfois, le mal-être, l'entourage ne le détecte pas forcément. On a beau être proche, on a beau s'aimer, on ne peut pas voir la détresse. Vous aviez senti quelque chose à ce moment-là ?
Oui. Nicolas, il était brillant. Pour lui, le cinéma, c'était Bergman et Tarkovsky. Pour lui, la musique, c'était minimum Bach. Parce qu'on ne dit pas Bach, puisque Bach est allemand. Et il avait du mal à comprendre qu'on ait dû quêter pour enterrer Béla Bartok. Que Mozart ait fini dans une fosse commune, des choses comme ça, et que la société, alors c'était pas du tout un anticapitaliste ou autre, mais il était fasciné que la culture se soit réduite à des choses très populaires.
Le monde n'était pas beau pour lui, quoi, en gros.
Non, le monde n'était pas à sa juste valeur, en fait, que les gens très talentueux n'était pas reconnu. Enfin voilà, il était très donc déprimé de tout ça. Et il avait du mal à se faire à ce monde, à même communiquer. Il n'était pas du tout autiste, mais il était très loin, en fait. Il ne comprenait pas qu'on lise une BD. Pour lui, il fallait qu'on lise Proust, d'une certaine manière.
Grégoire, dans votre album Vivre, il y a cette chanson.
Je ne garde pas les rancœurs de toutes mes années perdues à conforter mon petit cœur. J'espère que tu ne l'as pas su. Je ne garde pas l'amertume de tout ce que j'aurais pu faire. Je me dis que ce que nous fûmes.
Le titre, c'est « Je te pardonne ». Quand un proche met fin à ses jours, un parent, un frère, une sœur, un fils, une fille, on lui en veut, on s'en veut aussi. Il faut pardonner pour avancer.
Il faut pardonner, c'est le plus important. Se pardonner à soi-même, de ne pas avoir été parfait, pardonner à l'autre.
On lui en veut pour ce geste.
On s'en veut surtout à soi. On se dit qu'on n'aura pas essayé assez. J'allais dire, moi, je lui en ai lui en vouloir, ce serait égoïste, parce que d'une certaine manière, c'était... Si on doit rentrer dans les détails, mon frère a décidé de partir alors que ma grand-mère, qui était une personne qui l'adorait par-dessus tout, était encore en vie. Et qu'elle avait déjà très mal vécu le départ de Ludovic. Et je me suis dit, il sait très bien qu'il allait lui imposer cette douleur-là. Et que donc, s'il a fait ce geste-là, c'est qu'il ne pouvait pas attendre. Alors qu'elle avait 90 ans et qu'il restait quelques années seulement. Mais donc, il y a vraiment cette idée-là de me dire, il est mieux. Ouais. Il est sûrement mieux. Parce que ça faisait longtemps que ça traînait. Son meilleur ami, quand je l'ai appelé pour le prévenir, il m'a dit, ça fait, je sais qu'un jour j'allais avoir ce coup de téléphone dans ma vie. Donc, lui en vouloir, non. Mais après, s'en vouloir à soi, en vouloir à tout, parce qu'on en veut à tout le monde. Mais je pense donc, pour revenir à ce que vous disiez, c'est le pardon. Le plus important dans tout, c'est le pardon. Même dans les gens qui vous embêtent, entre guillemets, dans la journée, dans le truc, le pardon, parce que ça permet d'avancer. Pardonner, c'est pas oublier. Hein. C'est juste arrêter de s'embêter soi-même avec ça. C'est aller au-delà du don, entre guillemets, et vraiment de lâcher, quoi. De lâcher les affaires, les gens qui vous emmerdent, je vais le dire honnêtement. Vous y pensez toute la journée, eux, ils en ont rien à faire. Donc, il faut vraiment leur dire, OK, je te pardonne, je te laisse dans ton truc, je ne fais pas te sauver, de toute façon, j'en ai rien à faire. Et tracer sa route. Et je pense que pour ça, il faut pardonner.
C'est pas toujours facile.
Ah ben non, mais rien n'est facile.
Vous arrivez à toujours pardonner ?
Ah mais c'est un effort. Ça dépend, il y a des choses qui sont plus dures à faire. Alors, plus on le fait, j'allais dire s'il y a une note d'espoir dans tout ça, c'est que plus on le fait, plus c'est facile. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que le bonheur, c'est pas tous les jours facile. Il faut se lever tous les matins en se disant, ça va être une belle journée. D'ailleurs, il y a cette pub qui est géniale, qui passe un peu partout, et qu'il pleut partout, et l'un dit, oh, c'est vraiment une super journée. Et voilà. Et ça, je trouve que cette pub-là est géniale parce que c'est ça. Le bonheur, c'est pas facile. Le bonheur, c'est vraiment d'être heureux et de se dire, ça va bien, et de se dire, les choses sont belles. C'est à chaque fois qu'il y a une situation qui est un peu emmerdante, de s'arrêter et de se dire, OK, quel est le point positif de cette situation ? Et même quand c'est quelque chose de dramatique.
Pardonner, ça fait du bien à soi aussi.
Ah bah c'est le premier but.
Ça nous apaise après,
mais
avec
c'est
le
ce
temps.
Qu'il faut. Et c'est justement, quand j'écris cette chanson, ça m'a changé ma vision des choses. Parce que me pardonner à moi-même, arrêter de m'accrocher à des choses que je ne pourrais pas changer. Que ce soit les faits. C'est-à-dire que voilà, je ne peux plus communiquer de manière, j'allais dire, concrète avec mon frère. Le fait qu'il ne peut pas ressusciter. Et puis, si on parle de choses beaucoup plus légères, il y a des gens qui sont tellement, pour moi, dans une autre vision que moi et une vision que je trouve complètement absurde, que de toute façon, on ne peut pas communiquer. Donc, arrêter d'essayer de communiquer avec ces gens-là aussi. Voilà, c'est la même chose. C'est tracer ma route.
C'est la maturité, ça.
Peut-être, je ne sais pas.
France Bleu, dans le rétro.
Allez, on repart, téléportation, destination 2007. C'est l'été, vous enregistrez une maquette de plusieurs titres entre le 15 août et le 15 septembre. Vous avez alors 28 ans. Quelques mois plus tard, vous devenez le premier artiste français produit par les internautes grâce à la plateforme My Major Company. Et l'été suivant, on découvre Toi plus moi.
Oh, toi plus moi, plus tout ce qui le veut, je suis plus seul.
L'album devient disque d'or. En 2010, sort votre deuxième album, Le Même Soleil, dessus en duo avec Jean-Jacques Goldman, La Promesse.
Au bout mes compagnons, mes amis de jeunesse, Quelles que soient vos histoires, ne m'oubliez jamais. Et si un jour je tombe, faites-moi cette promesse. S'il n'en reste qu'un, vous serez ce dernier.
Ce titre, c'est pas sans rappeler là où les promesses qu'on fait quand on est scout. C'est de ça dont il s'agit sur ce titre. Le scoutisme, ce sont des valeurs. Être respectueux, être solidaire, être loyal, être brave, être digne de confiance, être juste. Faut être parfait en fait. Bah, ça fait beaucoup quand même. Hein.
Est-ce que c'est pas le but de la vie, une certaine manière, d'essayer de faire tout bien? C'est un peu ça, on essaye tous hein, de se corriger et de s'améliorer. Je ne sais plus qui disait ça, mais déjà, si vous faites 1% mieux qu'hier, c'est déjà bien. Mais moi, tous les jours, j'essaie de m'améliorer, que ce soit sur mes colères, sur mes volontés, sur mes
trucs. C'est quoi ces valeurs-là, les plus difficiles? C'est quoi le plus difficile? Quelles sont les choses sur lesquelles c'est le plus difficile de s'améliorer?
Tolérer la bêtise, quoi. Ça, c'est tolérer les cons, c'est quand même très compliqué. Après, bon, on est tous le con de quelqu'un. Mais,
paraît-il.
Mais oui, non. C'est-à-dire qu'il y a des choses, les gens butés, les choses comme ça, le conflit permanent, toutes ces choses-là, c'est compliqué au bout d'un moment de... Donc ça, c'est le plus dur. Le fait d'être toujours bienveillant un peu avec tout le monde, d'essayer d'avoir une grandeur d'âme, il y a des moments où on a juste envie de pas l'avoir. Mais à part ça, non. Sinon, bah voilà, faut essayer, hein, travailler.
Toutes ces valeurs, c'est ce qui fait l'humanité chez chacun et chacune d'entre nous. En 2024, la société manque d'humanité ou pas, selon vous?
Moi, je ne trouve pas qu'au quotidien, ce soit, enfin, sur le terrain, surtout, en faisant ma tournée, etc., je trouve que c'est quand même beaucoup plus détendu que ce dont on a l'impression quand on est chez soi. On parle toujours des trains qui n'arrivent pas à l'heure, comme dirait Frédéric Lopez, mais c'est vrai, c'est ça le truc. Donc les vidéos qu'on voit, c'est souvent... Moi, ce que je veux dire, c'est que si vous regardez les réseaux sociaux, il y a évidemment, plus vous regardez des vidéos de gens qui se mettent des baffes, et ben on va vous proposer ça. En revanche, il y a quand même des super vidéos de gens qui offrent des fleurs comme ça pour rien, et qui font juste des actes gentils. Et quand vous regardez ça, il y en a plein, en fait. Donc il y a de tout, il y a de tout.
Qu'est-ce que les algorithmes vous proposent alors dans vos vidéos, vous?
Beaucoup de ça.
Ah ouais, voilà.
Ouais, beaucoup de ça. Il y a cette manie là aux États-Unis des mecs qui disent aux gens ah, tiens, regardez là-bas, ils payent leurs courses. Vous voyez ça? Avec la carte de crédit, comme c'est sans contact.
Ouais.
Ils disent un vieux monsieur, ils disent excusez-moi, il fait tomber un truc, le mec se baisse et puis il ne trouve pas. Et pendant ce temps-là, l'autre paye et part.
Alors j'ai connu ça au drive, moi ça m'est arrivé, c'est-à-dire au Mac Drive.
Ouais.
Il y avait quelqu'un devant moi qui était au drive et qui avait payé ma commande. J'étais juste... Alors je réexplique.
Ouais, d'accord.
Non, en fait on s'en fout.
Non, mais
moi
j'ai
c'est
compris.
Pas grave. Non, mais en gros le gars est passé au Mac Drive, il a pris sa commande,
il a
payé, il a dit, ouais, et il a dit je paye pour la famille qui est derrière moi.
Ouh, et ben
sympa,
voilà.
Non?
Ben voilà, et ben
ah,
voilà.
J'adore.
Ça c'est des choses qui sont rassurantes.
C'est vrai. Téléportation, Grégoire. Nous voici maintenant en 2011. Cet été-là, vous êtes dans le Gers pour un mariage. De 2h de l'après-midi à 2h du mat, vous passez votre temps avec une certaine Éléonore. Vous avez eu le coup de foudre, vous ne la lâchez pas.
Non.
Vous qui êtes timide, vous vous surpassez là.
Ah non, mais j'étais timide jusqu'à...
Ah, ça allait mieux?
Ouais, j'étais déjà jusqu'à 30 ans. À partir de 30 ans, ça allait beaucoup mieux.
Ah ouais. Avec le succès alors finalement,
oui,
ça a décoincé un peu.
Ça a beaucoup décoincé parce que déjà j'étais plus épanoui et puis les gens vous donnent confiance aussi. Et puis ça donne confiance en fait de faire ce métier. Mais effectivement, alors je l'ai rencontré le 1er octobre et je l'ai demandé en mariage le 24.
Et vous avez été rapide, le 25 août 2012. Vous vous mariez pour le meilleur et pour le pire, c'est du rapide. Un an après vous être rencontrés, bim, veux-tu être ma femme? Oui, je le veux, vous vous faites la promesse. Si je me marie un jour, ce sera pour toujours. C'est une promesse qui est facile à tenir.
Bah, en tout cas, aujourd'hui, ça fait 12 ans.
Ouais, mais c'est facile.
Ouais. Après, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Hein. Mais en même temps, alors, ce que l'histoire ne dit pas, c'est que moi, j'ai eu quelques relations avant Elona, et que j'ai eu notamment des relations qui n'étaient pas forcément très heureuse. Et ces relations-là m'ont permis de prendre conscience de ce dont je n'avais pas besoin et ce dont je n'avais pas envie. Et ce qui fait que lorsque j'ai rencontré Eleonore, elle correspondait exactement à ce que je recherchais d'une certaine manière. Mais grâce aussi aux mauvaises relations d'avant, en fait.
Sur votre troisième album, Grégoire, Les Roses de mon silence, il y a ce titre, Elle est.
J'attendais, car elle est tellement dingue, elle est tellement fringue, elle est
chanson clin d'œil à votre femme Éléonore. Dans vos albums, on y lit votre vie d'artiste, d'homme, de mari, de papa aussi. À travers vos mots, beaucoup se reconnaissent. Sur votre album Vivre, justement, il y a un titre qui va parler aux parents. Cette fois, c'est la couverture.
Tu peux bien me renier, me bannir et me fuir. Tu peux bien m'insulter, m'ignorer et me dire que t'es plus mon enfant et que je sers à rien et que je perds mon temps car je fais jamais bien. Tu peux claquer les portes et crier le plus fort, espérer qu'on m'emporte et même vouloir ma mort. Ça n'est pas important car je t'ai dans les veines et je reste parent et ce quoi qu'il advienne.
Être parent, c'est se planter, c'est culpabiliser, c'est vouloir faire confiance à son enfant mais en même temps être sur son dos. C'est aimer même s'il leur arrive de nous détester, surtout à l'adolescence. On dit que l'adolescence c'est l'âge ingrat mais ça passe finalement.
Ça peut passer.
Ah, ça peut passer.
Oui, oui. Après, ben justement, je
pense. Ça passe pas toujours.
J'en sais rien parce que j'ai vu quand même pas mal d'adolescents rentrer en conflit avec leurs parents et créer un conflit que les parents aussi entretenaient hein, des deux côtés et qui a perduré pendant des années et notamment aussi parfois dans les familles divorcées, dans les choses comme ça. Et je dirais pas que je suis irréprochable là-dessus non plus, mais en revanche, oui, effectivement, je pense que quand l'adolescence arrivera, parce que là ils sont aux prémices, ouais. Les miens, ça va, j'ai encore un an ou deux, mais effectivement, de comprendre qu'il y a ce conflit-là, de pas forcément rentrer dedans sans se laisser marcher sur les pieds, il faut imposer des limites, mais savoir ne pas commettre l'irréparable.
Grégoire, dernière étape de notre voyage dans le temps dans un instant. Juste avant, voici Tout ce que l'on dit, extrait de votre album Vivre sur France Bleu.
Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste un peu de courage, prendre son destin en main, apprendre à oublier et à tourner la page. Il suffirait de rien, comme il dit, juste un signe, rien qu'une aube un matin, et décider enfin d'écrire ses propres lignes. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danse qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il suffirait de rien, juste la résilience, n'avoir plus peur de rien, bousculer son confort et prendre un peu le risque de provoquer la chance. Il suffirait de rien, au juste de choisir, ne plus remettre à demain. On ne change pas le passé, ce qui est fait est fait, mais on écrit l'avenir. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danse qu'on ne lance pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a trop de routes que l'on ne prend pas, il y a trop de doutes que l'on garde en soi, il y a trop de choses que l'on n'ose pas, trop de bouquets de roses que l'on n'offre pas. Il y a tant de choses que l'on n'ose pas, tant de bouquets de roses que l'on n'offre pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas. Il y a tant de danse qu'on ne danse pas, tant de coups d'imprudence qu'on ne tente pas, et tout ce que l'on dit mais qu'on ne fait pas fait qu'on passe une vie que l'on ne vit pas.
Tout ce que l'on dit sur France Bleu, signé Grégoire, est dispo sur l'album Vivre. Grégoire avec nous encore pendant quelques minutes.
Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald.
Grégoire, ce sont 7 albums entre 2008 et 2024. Ce sont des disques de diamant, de platine. En janvier 2024 sort l'album Vivre, dont on a pu parler pendant cette émission. Je voulais mettre en lumière le titre Une trace d'amour. Trop bon, trop con, on est nombreux à s'être dit ça. Vos mots vont résonner chez beaucoup, je pense. Vous pouvez les lire, ces mots ?
Ben, avec plaisir. On sera toujours les trop bons, trop cons. Ceux qui acceptent tout, ceux qui ne gueulent jamais, ceux qu'on bouscule et qui vous disent pardon, ceux qui ne font pas de mal, ceux qui n'ont rien demandé. On est peut-être là par erreur, mais nous on parle avec le cœur. Et on laissera une trace d'amour, un peu de bonheur pour tous les jours. Oui, on laissera une trace d'amour avec le cœur, pas les discours. On fera toujours partie de ceux qu'on croit débiles parce que gentils. On fera toujours partie de ceux qui, dans les fils, restent polis. On sera toujours les laissés pour compte, dont on écrase les pieds sans même s'en rendre compte. Ceux qui n'ont pas d'empire ni de royaume, ceux que l'histoire oublie, qui ne sont que fantômes. On n'est peut-être pas les meilleurs, mais nous on parle avec le cœur.
Finalement, c'est pas si grave alors d'être bon, d'être trop bon.
Ah mais non, il faut, bah, quitte à faire partie de d'une espèce, autant faire partie de celle-là, je trouve, autant être trop bon, trop con. Non, mais je. Après, moi, j'ai toujours l'espoir qu'il y ait une justice. C'est qu'un jour, les trop bons, trop cons seront remerciés, entre guillemets. On est fait comme ça, de toute façon. Je pense que c'est compliqué de s'endurcir quand on est trop bon, trop con. Aujourd'hui, vraiment, ça fait discours de vieux, mais je l'assume. La bienveillance, c'est très, très important. Et c'est pour soi-même. Ça fait tellement de bien d'être bienveillant et d'être entouré de ça.
Après, on n'est pas obligé d'être bon avec les cons.
Ah non. Enfin, il faut être bon avec les cons, il faut être bon avec tout le monde, il ne faut pas trier. Si on est bon juste avec certaines personnes, ça n'a pas d'intérêt. Il faut être bon avec les cons, mais en revanche, il ne faut pas s'emmerder avec eux.
On les voit venir, les cons, ou pas ?
Ah bah, il y en a, surtout, on les entend venir. Nous, on est dans les files, je parle des files d'attente, notamment dans les supermarchés, on reste poli. Puis il y en a, bon, vous les connaissez, hein, ceux qui vous passent devant, qui vous bousculent, qui parlent mal. Notamment que ce soit aux caissiers, aux gens, voilà, qu'ils considèrent être voilà, tout ça, ça peut me crisper, moi. Mais après, je me dis je préfère être gentil, moi, et voilà.
Allez, une dernière escale dans le futur cette fois, Grégoire. Nous sommes en 2030. Comment vous imaginez le monde et la société de demain? Ah.
Ouf. C'est compliqué parce qu'il est quand même en train de se passer des choses dans le monde qui sont très techniques et qui peuvent déboucher sur le pire. Donc, j'ai absolument aucune idée de comment ça va se passer dans le monde. En revanche, j'ai l'impression que les gens sont... Alors, il y a ceux qui vraiment ont, entre guillemets, des combats, qu'ils soient religieux ou autres, militantistes. Il y a plein de gens comme ça. Et il y a toute une autre partie des gens qui se tournent vraiment, et notamment depuis le Covid, vers vivre le moment présent, vers espèce de j'allais dire, bien-être, tout ce côté-là, et qui sont beaucoup plus en phase avec le fait de bien vivre, de bien se nourrir. Voilà. Et donc, cette notion de la vie, de vivre bien, la campagne, tout ça, ça peut peut-être sauver le monde. Ouais.
On parle dans ces cas-là de quête de sens, finalement.
Exactement. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui cherchent un sens qui est autre chose que dans le conflit. Mais ça me fait penser aux trop bons, trop cons. Je pense que ces gens-là sont majoritaires. Je pense aux agriculteurs, notamment. Il y a un moment, il ne faut pas trop les pousser. Parce qu'à un moment, ça va déborder. Et souvent, les taiseux, vous savez, c'est souvent les plus courageux. Ils ne disent pas grand-chose, mais il y a un moment, quand ils se lèvent et qu'ils disent quelque chose, ce n'est pas pour rien dire. Donc, j'ai de l'espoir là-dedans. J'ai de l'espoir que cette majorité silencieuse qui, pour moi, est bienveillante et qui ne parle pas, qui laisse les autres éructer dans tous les sens, un jour se réveillera si vraiment ça tourne mal.
Grégoire, cette émission, on la termine toujours avec un extrait musical. Les Beatles, Let It Be, chanson mythique des Beatles, donc sortie en 1970, un titre symbolique pour vous. Paul McCartney raconte « J'ai fait un rêve où ma mère, qui était décédée, venait me voir pour me rassurer. Elle me disait que tout allait bien se passer. Let It Be. » C'était un message positif et quand je me suis réveillée, j'ai écrit cette chanson. Finalement, les personnes qui ne sont plus de ce monde viennent nous visiter dans nos rêves.
Et pas que dans les rêves, je pense. Je Je pense qu'elle nous accompagne en permanence, effectivement. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce que je crois. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais ça me donne la force d'avancer et la force de croire en plein de choses et de garder le sourire.
Pour clore ce voyage, Grégoire, je citerai Jean-Jacques Goldman. « J'étais parti pour me trouver, je ne reviens que pour aimer. »
Oui, c'est joli.
Je pense que ça vous correspond un peu, non ? C'est un peu ça ?
Je sais. Oui, oui.
Ah,
oui.
Vous avez envie de dire non ? Non, mais vous pouvez me contredire, non, je peux me planter.
Non, non. Alors, non, non. Déjà, je n'oserais pas.
Vous pouvez.
Je n'oserais pas dire ça. Non, c'est pas ça. Faudrait que je reprenne ça. Alors, je suis parti.
J'étais parti pour me trouver, je ne reviens que pour aimer.
Oui, c'est vrai, c'est pas faux. Oui,
ah,
oui. Je reviens pour aimer. J'allais dire, je reviens surtout pour témoigner qu'en fait, il suffit. Oui, comme il disait, s'il suffisait d'aimer, en fait, mais vraiment pour témoigner que rien n'est définitif dans la douleur et qu'il suffit juste de le vouloir d'une certaine manière. C'est facile à dire, on a l'impression, mais c'est pas facile tous les jours. C'est une discipline, c'est une volonté. J'ai l'impression qu'effectivement, plus on sème de l'amour, plus on en récolte.
Merci Grégoire.
Merci Déborah.
Vivre, ce sont des chansons qui retracent nos vies, des vies traversées par le deuil, l'amour, la parentalité, le jugement. C'est un album lumineux, malgré parfois des mots douloureux. Vivre, c'est aussi une tournée dans toute la France. Merci de nous avoir accompagnés. Dans le rétro, vous pouvez vous abonner au podcast ou nous écouter sur France Bleu chaque week-end à 14h. Passez un super bon week-end. Prenez soin de vous. Salut.